Attachez vos ceintures et vivez l'aventure automobile jusqu'à 22h sur Indestar.
Starter en direct et en podcast sur indestar.fr.
Salut tout le monde, comment ça va en ce lundi soir? J'espère très bien, alors je sais que vous pouvez pas me répondre comme ça, mais j'espère que vous êtes au taquet.
Moi je peux.
C'est vrai Teddy, tu peux? Alors comment ça va Teddy?
Ouais.
Si tu es content.
Non.
T'es content d'être là?
Oui.
Alors, bon, tout va bien.
Mais non, tout ne va pas bien.
Qu'est-ce
Il y en
passe?
A d'autres derrière qui sont abîmés.
La voiture?
Fatigué, oui.
Aïe.
Ouais, ma petite culture, ma petite Alfa Romeo 166.
Aïe, aïe, aïe. Alors, petite. Non.
Petite mais... 5 mètres. Bah, d'après certains, invisible même.
Peut-être invisible aux yeux de certains. Alors, raconte-nous ce qui se passe.
Tu veux pas faire un petit sondage avant?
Ah si, si, si. Ah, alors on vous tease de ce qui va se passer. Aventure avec la voiture de Teddy. Bon, très bien. Le sondage
petit
alors.
Petit sondage,
oui.
Starter, le sondage.
Comme toutes les semaines, hein, on vous met un sondage sur les réseaux sociaux. Alors, la page Facebook d'Indestar, la page, pas de la page, on dit le compte Instagram, Indestar Radio, en story, hein, vous avez une question, vous répondez basiquement par oui ou non, ou pour ou contre, ou des choses comme ça. De toute façon, c'est ça les sondages.
Y'a que deux choix.
Y'a que deux choix. Hein. Acheter une petite sportive aujourd'hui, est-ce que c'est un plaisir coupable ou est-ce que c'est un plaisir assumé? Alors pour toi, Teddy, déjà.
Bah écoute, je l'aurais peut-être jamais envisagé, je sais pas, il y a 5-10 ans déjà.
Oui.
Mais vu ce qui se vend comme merde maintenant, j'ai bien envie de dire, bah ouais, je pense que j'ai tapé dans le rétro, hein, parce que oui, c'est parce que le rétro.
Donc plaisir assumé alors.
Je pense que ouais, parce que ouais. Ça me ferait chier de rouler en électrique ou en voiture qui avance pas.
Ouais.
Mais je veux pas une sportive avec un look de sportive non plus, donc pas trop. Tu vois, une petite 205 par exemple.
Ah oui. Oui, donc là t'es dans la sportive, mais la sportive rétro en fait. C'est pas simplement la petite sportive.
Bah, celle qui peut avancer si t'en as envie, tu vois.
Ouais, je comprends.
Pas celle qui. Non. Ouais. Pas les voitures récentes qui n'avancent pas.
D'accord. Bon, moi évidemment, plaisir assumé aussi. Hein. Mais vous êtes pas de cet avis. 75% à dire coupable. On n'a plus le droit aujourd'hui. Voiture électrique ou rien. C'est ce qu'a décidé le gouvernement, l'Union Européenne et tout le blabla.
On va rouler en électrique si tu veux.
Bah, le plaisir de l'électrique, je peux le comprendre dans le sens où on a des accélérations qui sont assez sympathiques parce que tout le couple est délivré à basse vitesse. Donc on a un petit effet waouh. On n'a pas le bruit déjà, d'une part, et puis bah on n'a pas de sensation d'autre part, donc personnellement, ouais, petite sportive, alors je pollue pas trop, tu vois, petite sportive légère et dynamique, mais petite sportive quand même, quoi.
Ouais, je sais pas, le jour où j'aurai une électrique me doubler, on en reparlera.
Ça peut, hein.
Eh ben, je l'ai jamais vu.
En vrai, tu prends un modèle électrique assez puissant et il te fume hein, complètement. Hein.
Peut-être, mais en attendant, moi, on rentre plutôt dedans l'emploi. Hein.
Alors justement, allons-y, qu'est-ce qui se passe, Teddy?
Starter, les brèves.
Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine pour toi, mon pauvre?
Alors, samedi après-midi, enfin samedi vers midi, hein, je travaillais à une heure,
donc
j'allais sur... j'étais sur la route pour aller à mon boulot. J'étais sur un rond-point, tu vois, tranquille, hein, j'allais pas vite, tranquillement.
Le mec, il se justifie déjà.
Ouais, faut
déjà,
justifier.
J'allais pas vite.
Non, parce qu'il y a souvent, on en parle, vous comprendrez pourquoi je justifie.
Oui.
Je roulais, normalement, sur un rond-point, donc j'allais sur la sortie qui allait en face de là où je suis rentré. Donc techniquement, je me sers.
Donc t'étais engagé déjà sur le rond-point.
J'étais engagé, ouais. C'est un rond-point où tu passes à 1.
Oui.
Donc bon, c'est vrai que t'as de la place. Tu pourrais te mettre à deux en vrai, hein, si on y réfléchit bien.
Si tu sers bien.
Ouais, voilà. Si tu te mets d'accord avec l'autre, dis. Ouais. Mais bon, on le fait pas, évidemment. Hein. Donc techniquement, je me mets quand même le plus à l'extérieur, parce que ouais, je passe une sortie et je sors. Quoi.
Ok.
Voilà. Et ben bizarrement, la première sortie, donc je suis à un quart de mon trajet, à la moitié plutôt. Il y a un gars qui déboule de la sortie qui m'a soi-disant pas vu. Hein. D'où le 5 mètres, effectivement.
Alors que pourtant, une voiture de 5 mètres rouge en plus.
Mais c'est ça. Le gars m'a pas vu ou d'après lui, je roulais trop vite ou quelque chose du genre. Mais tellement vite qu'il m'a pas vu passer. Quoi.
D'accord.
Je sais pas pourquoi, il s'est engagé sur mon point et il m'a culbuté légèrement par l'arrière.
Oui.
Il a touché
Donc il t'a pas vu passer,
droit.
Mais il t'a rentré dans le pare-choc arrière. Quoi.
Ouais, non, mais il est fort. Surtout qu'il a touché ça avec son avant gauche.
Ouais.
Donc ça veut dire qu'il avait toute ma voiture devant lui. Mais il m'a pas vu. C'est... voilà.
Et alors ça, c'est ce qu'il a dit quand vous avez fait le constat après.
Alors oui, parce qu'effectivement sa version a changé. Je suis tombé sur un gars baba cool, enfin pas baba aussi, baba cool, type qui aime Johnny Hallyday, qui est un peu simplet, tu vois. Ouais, c'est méchant, mais bah ouais, en même temps, ils se ressemblent tous, ces gars-là. C'est méchant. Mais voilà, tu vois, et sur le moment, tu vois, je continue un petit peu à rouler pour m'arrêter sur un lieu sympa.
Oui.
Enfin, un lieu.
Oui, pas au milieu du rond-point.
Voilà, c'est mieux. Et le gars, oh, je suis désolé, oh, je t'avais pas vu, je sais pas, je suis désolé, en plus, c'est pas ma bannière et tout. Tu vois, le gars paniqué et tout.
Ouais, paniqué, oh. Mais de bonne foi.
Oui, voilà. Mm. J'ai dit, oh, vous savez quoi, là je travaille, puis j'ai pas de constat sur moi, vous avez rien? Non, bah non, c'est la voiture de mon boulot. Et voilà, donc le gars, très paniqué, pas de constat. Donc on peut pas faire un constat.
Ok.
Donc bon, je dis, bon bah on va bien voir, hein, avec un peu de chance, on pourra s'arranger. Voilà, on s'échange nos numéros, tranquille. Okay. Pas de bagarre, pas d'énervement.
En vous donnant rendez-vous plus tard pour éventuellement voilà. Faire un constat.
Le gars, après, il me rappelle le dimanche.
Ouais. Le lendemain.
Je me suis dit, putain, il me rappelle. Déjà, c'est lui qui me rappelle.
Ouais.
Il sait qu'il était en tort, enfin, il était 100% en tort, et il me rappelle. Et il me dit, ouais, ça dérangerait si on fait ça aujourd'hui à 17h. Alors, aujourd'hui à 17h, c'était dimanche à 17h.
Ouais, donc.
Alors, je suis boulanger, j'ai l'habitude de travailler le dimanche, mais quand même.
Pas à 17h.
Bref, faut me laisser un peu de temps hein, tranquille. Donc, du coup, j'ai dit, bah, on peut se rejoindre, mais à la sortie de mon boulot, voilà. Donc, on fixe un rendez-vous, on va sur son lieu de travail, qui est une écurie, je ne sais plus où. Une écurie avec des chevaux, voilà.
Oui.
Des chevaux, des vrais.
Oui.
Une vraie écurie, vous savez, à l'ancienne.
Ouais. Y a pas de Porsche à l'intérieur.
Et donc, je suis accueilli par le gars et son patron pour le coup, parce que c'était une voiture de fonction, une voiture de prêt qu'il prêtait son patron.
Et le patron était aussi cool ?
Le patron n'était pas aussi cool, il était pas aussi con aussi surtout, enfin pas aussi
gentil.
Oui, le gars, ça se voyait tellement qu'il voulait en fait me t'arnaquer. Donner des torts. Bah ouais, ouais clairement. Le gars, mais si c'est possible de rentrer à deux. Non.
Oui, parce que pour lui, t'étais déjà. Lui était déjà engagé.
Oui, sur un rond-point. Et moi, soi-disant, je lui ai passé devant. Je l'ai doublé sur un rond-point.
C'est pour ça qu'il t'a rentré dans le derrière, évidemment.
Bien sûr,
logique.
Évidemment. C'est, voilà. Et oui, il est possible, effectivement, que ça soit de ma faute.
Bien sûr.
Et seuls les experts en jugera. Voilà.
Ouais.
Donc le gars, on remplit le constat. Et du coup, bah, il marque ce qu'il veut de son côté. Hein, puis moi, je marque. Bah, ce que je veux de mon côté, mais qui me paraît quand même être un peu plus la vérité. Ça reflète un peu plus mon goût. En tant que victime,
bah,
voilà.
Ouais, quand même, oui.
Je me sens un peu abusé. Je suis là, tranquille, je regarde devant moi. Pouf, on me tape derrière et soit dit non, j'ai fait quelque chose.
Bah,
ah ouais,
ça.
D'accord.
Ouais.
Ok.
Donc t'étais pas d'accord avec sa version, forcément.
Ouais, non, j'étais pas d'accord. Puis il m'a fait une super réflexion, le gars, il me dit ah ouais mais moi je regarde partout quand je conduis et tout.
Ouais, bah, sauf
même
devant.
Derrière. Ouais, non mais il me dit ça, je lui dis même derrière vous êtes sûr? Mais me dites pas ça, dites-moi que vous regardiez devant moi.
Je regarde derrière quand je conduis.
C'est vrai, c'est quand tu t'engages sur un rond-point tu regardes derrière toi. Mais non. Non tu regardes devant merde. Enfin le gars. Mais bon le patron il essaie de rattraper le truc et tout.
Ouais bah oui.
Ah, ça sent les embrouilles, du coup, je lui ai dit, bon bah non, je le signe pas.
Ouais,
le patron, pas très content, il me dit, ah, ça va me faire chier de faire un retard. Je lui ai dit, ouais, moi ça me fait chier, surtout que ça soit pas la vérité exacte. Hein.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Donc, bon, patron, pas super content, mais bon, pas énervé non plus, mais bon, bah les couilles, hein. Je veux avoir gain de cause,
ouais.
Et au final, j'ai appelé mon assurance aujourd'hui. Je veux avoir gain de cause, mais bon, j'aurais quand même une franchise à payer. Alors...
Ah, ça, c'est dommage, ouais. Alors que c'est dommage d'autant plus que bah, t'y es absolument pour rien. Et
bah,
malheureusement,
ouais.
le fait qu'est, bah, qu'on t'a foncé dans le derrière et que c'est toi qui vas payer quand même, quoi.
C'est ça. Donc, si j'ai un conseil à donner, si vous avez une voiture que vous y tenez et que c'est pas une voiture un peu trop vieille... Avant, j'avais une Laguna, donc le contrat, c'est vrai, je m'en foutais un peu.
Oui.
Là, maintenant, ça, je m'en fous un peu moins. Ouais. Donc, je vais changer de contrat, je vais augmenter.
Je pensais que le conseil, c'était accélérer.
Eh bah techniquement si vous voulez à 110 le gars il vous verra même pas arriver. Voilà. Non j'ai une assurance au tiers plus.
Okay.
Donc c'est le tiers mais le tiers c'est le bas de gamme avec un plus.
Oh, ouais, et les plus que tu choisis, il y a des options des assurances.
J'ai choisi les vites, les phares, ce genre de truc.
Ouais.
C'était pour ma Laguna, donc je me suis dit pour la Alfa Romeo, vas-y, je mets la même chose pour le moment.
Oui, bah après, est-ce que assurer complètement ton véhicule, est-ce que c'est une bonne chose,
hein. Je compte pas forcément le faire complètement,
ouais.
Mais je compte le faire un peu plus quand
en
même.
Plus, plus.
Ouais. Ouais. Parce que j'y tiens, mais on a le Romeo quand même. Elle est jolie. Puis
c'est vrai qu'elle est jolie.
Dans 5 ou 10 ans, peut-être qu'elle vaudra beaucoup plus.
Sait-on jamais.
Je mise.
C'est ça, mise sur l'avenir. Moi, j'ai pas eu d'accident, fort heureusement. Par contre,
bah non, t'as même pas pu.
Panne, j'ai pas pu démarrer. Avec la 205, ça fait une semaine et demie que je l'ai pas démarré parce que j'ai l'accord. Et ouais. D'ailleurs, j'ai fait des petits travaux sur l'accord. J'ai mis des cannelures de pot d'échappement arrière parce que quand ils ont changé le pot d'échappement, ça fait un peu ridicule. Donc, j'ai des jolies cannelures, j'ai repeint des petites choses comme ça. Par contre, la 205, je m'en suis pas occupé pendant une semaine et demie. Apparemment, elle est pas contente.
Elle était jalouse.
Elle était jalouse, donc j'ai voulu la démarrer ce week-end et impossible de démarrer. Alors soit
pas
d'arrivée d'essence, soit panne de bougie, je sais pas. Je vais tenter cette semaine de voir ça. En tout cas, elle est sur le parking et elle attend. Voilà.
Elle est presque en entrée. Alors non, parce que effectivement, sur un parking, tu as des risques aussi.
Ah oui, alors c'est vrai que sur le parking, je me suis déjà fait rentrer dedans. Donc c'est pas, je suis à l'abri
Laisse
de rien.
Pas trop souvent, pas trop longtemps.
Bon, sinon, ma petite brève à la une de l'actualité, évidemment, vous savez, il y a l'Ukraine, hein, conflit avec la Russie, tout ça, tout ça. Il y a des constructeurs européens qui vendent des voitures en Russie, dont Renault. C'est son deuxième plus gros marché.
Ah.
Ouais, derrière la France.
Ils vendaient des Dacia, non ?
Non, ils vendaient des Renault aussi.
Renault
ouais, ouais. Alors, avec des modèles qui sont pas exactement les mêmes qu'en France, ouais. Il y a par exemple le Captur avec un K, alors que chez nous, il est avec un C.
C'est parce que c'est russe.
Peut-être, ouais. Et 500 000 voitures vendues l'année dernière pour Renault en Russie, sous les différentes marques, dont Lada, parce que je rappelle qu'il est aussi propriétaire de Lada depuis 2017. Donc ça va être compliqué pour eux, ça se voit en bourse d'ailleurs où c'est la chute, hein. Et puis ça va être compliqué pour nous à la pompe parce que dans pas très longtemps, si vous trouvez l'essence chère en ce moment, bah, ça risque encore d'augmenter avec tout ça. Il y a Total par exemple en Russie comme entreprise.
Voilà. Ils ont peut-être un territoire le plus grand au monde et effectivement avec potentiellement le plus de gisements pétroliers au monde.
C'est ça. Donc là, on est passé, on a passé la barre du 100$ le baril. Donc logiquement, on devrait avoir des répercussions en France. Alors c'est valable pour l'essence, c'est valable pour le gaz évidemment aussi. Hein, mais là, en ce qui nous concerne pour l'automobile, ça va être surtout l'essence. À part si vous roulez au GPL.
C'est pas genre 1,72 en ce moment ?
Ah si, ça ne fait qu'augmenter. Moi, je suis à 1,79 je crois pour le sans-plomb 98.
C'est pareil pour le diesel effectivement parce que je suis diesel, mais ouais.
Ça augmente.
J'y crois aux 2 euros, je croise les doigts. On les veut pas, mais ça donne des chiffres ronds, c'est mieux.
Ouais, c'est vrai. Ce soir dans Starter, un billet pour l'Inde, un marché automobile qu'on connaît pas vraiment. Pourtant, il y a pas mal à en dire. Hein. Déjà, pour bien resituer le truc, l'Inde, c'est 1,38 milliard d'habitants. C'est 18 fois la France, t'as dit. Énorme.
Répète-moi ce chiffre.
1,38 milliard d'habitants. Nous, on est 65 millions en France. J'ai pris ma calculatrice, ça fait 18 fois.
Ouais, ouais, à peu près. C'est ça, ouais, et c'est un septième de la population mondiale, quasiment.
Donc c'est énorme. Ouais. Et pourtant, il n'y a que 3% des gens qui ont des voitures là-bas.
Ouais, mais ça s'explique pour pas mal de choses, j'imagine.
Exactement.
On voit souvent déjà... des vidéos, enfin, quand on voit la circulation en Inde, c'est souvent des pousse-pousse, là, des tuk-tuk, et des routes qui ne sont pas des routes.
Ah là, c'est ça. Alors déjà, c'est dominé par les deux roues. Ouais. C'est de l'ordre de 80-20. Hein. 80% pour les deux roues, 20% pour les voitures.
Ça se ressent dans la marque la plus présente d'ailleurs en Inde, pour le coup.
Exactement. Alors déjà, par manque de moyens, ils n'ont pas de voiture, hein, parce que évidemment, le développement de la voiture personnelle... En gros, il a 30 ans à peu près, et encore, hein, je dirais même 20-25 ans.
Récent, ouais.
Avant, c'était ultra rare parce que bien trop cher par rapport au niveau de vie des Indiens.
Il va circuler.
Il y a, tu le disais, les infrastructures, parce que ou manque d'infrastructures, on va dire plutôt. Quand il n'y a pas de route, c'est un peu compliqué de voyager. Hein.
C'est pas adapté pour les voitures, on va dire, de taille normale pour nous.
Non. Bah, disons, quand tu as des chemins comme ça, ouais, c'est compliqué.
Non.
Et quand il y en a, bah, en principe, ils ne sont pas seuls dessus, et c'est un euphémisme. Hein. C'est-à-dire que dans les grandes villes, bah, c'est clairement le bordel. Hein.
Imaginez les 4 voies.
Oui.
Ben, eux, c'est des 15 voies.
Mais il faut. Mais...
Et c'est pas des voies, c'est juste une route.
Tu slalomes entre. Ouais. Je vais prendre Bombay par exemple, mais bon, c'est valable dans toutes les grandes villes d'Inde.
C'est Bombay.
Déjà, ouais, alors c'est Bombay parce que l'état des routes est désastreux. C'est pas des nids de poules là, c'est des nids d'éléphants qui sont là-bas. tu tombes dedans, tu en ressors plus. Il y a des embouteillages de dizaines de kilomètres. Il y a la mousson qui s'en mêle aussi, hein, les conditions climatiques qui sont là. Les particules de pollution qui se collent sur le pare-brise. Bref, avoir une voiture, en fait, c'est le merdier, quoi. On en a clairement. Hein. La circulation, on pourrait dire ça dans plusieurs pays, mais je pense que l'Inde.
Et l'un des pires.
C'est le pompon sur la Garonne. Arrêtez-moi cette expression, mais si tu sais conduire en Inde, je pense que tu sais conduire partout.
Tu leur dis code de la route, ils te disent quoi?
Alors code de la route, puis faut pas écraser genre le sixième gosse de la famille qui est tombé du scooter, tu vois. Donc franchement, c'est vraiment un parcours. Et va conduire la nuit. tu vois, où t'as la moitié des véhicules qui sont pas éclairés. Donc c'est un bordel pas possible. Et pourtant ils sont fans d'automobile, hein, les Indiens. Il y a des clubs, il y a des rassos, il y a des garages aussi qui sont prêts à te trouver n'importe quelle pièce. Et s'ils trouvent pas la pièce, ils la refabriquent. Alors, il la refabrique pas forcément au standard européen.
Oui, tu vois. Ça refabrique Madine, moi.
Oui, oui, mais tu roules, c'est le principal. Et puis, vu qu'il n'y a pas de contrôle technique, si tu veux, ça passe. Hein.
Oui, voilà. C'est bizarre, ça.
Ça veut dire que, bon, on roule dans des merguez, mais.
Mais on est fiers de nos merguez.
Mais on est fiers de nos merguez. Voilà. Cela dit, mais pas que, parce que, en vrai, en Inde, la voiture, c'est un. Il y a quand même ce côté vecteur social. Tu sais qu'on avait, par exemple, en France, il y a encore quelques années.
Avoir une voiture, c'est cool. Donc, oui, forcément.
Avoir une voiture, c'est cool. Et si t'as une belle et grosse voiture, plus t'as une belle et grosse voiture, plus tu pèses dans le game. Voilà. Ça veut dire que t'as réussi. Donc, quitte à rouler en Lamborghini sur des chemins de terre au milieu des pousse-pousse et des mobilettes. Tu vois, c'est vraiment, t'as du fric. Et c'est cet amour de l'automobile et le potentiel, on va dire, aussi de développement du marché, hein. Je rappelle, 32 voitures pour 1000 habitants, ça veut dire qu'il y a de la marge, hein, qui fait que les constructeurs étrangers, alors que ce soit les Européens ou les Américains, exactement, ont investi le marché de l'Inde dans les années 2000 à peu près. C'était une époque où il y avait une croissance à deux chiffres, donc on voyait l'Inde un peu comme le nouvel Eldorado, c'est d'ailleurs ce que c'était.
C'est pas faux.
Sauf que ça s'est pas passé exactement comme prévu depuis ce temps-là.
Ils se sont peut-être fait jarter par des marques.
Il y a eu plusieurs choses. En fait, déjà sur le niveau de vie, alors ça a bien augmenté, hein, dans les années 2000, ce qui a permis d'imaginer que ça allait faire comme en Chine, par exemple. Sauf que depuis une dizaine d'années, ça a plutôt tendance à stagner. Et ça n'a pas atteint, si tu veux, un niveau suffisant pour que la classe moyenne puisse accéder à l'automobile. On n'est pas encore, ouais. Tu vois, on est encore dans une, je vais pas dire d'une élite, mais disons une classe aisée qui peut accéder à l'automobile. Voiture, ouais. Le gouvernement indien n'a pas rangé les choses non plus, puisque à partir de 2016, ils ont voulu démonétiser le pays. Alors ça permet d'éviter apparemment la corruption, hein, quand voilà, avant tu te... mais lol. Culturellement parlant, c'était pas dans les mœurs, c'est-à-dire que avant t'arrivais chez un concessionnaire en Inde avec la liasse de billets, paf, tu posais sur la table, je veux une voiture, tu vois. Ouais. Depuis qu'on a démonétisé tout ça, le côté leasing, prêt, etc., c'est clairement pas dans les codes, donc les Indiens ont tendance à acheter moins de voitures. Ça a freiné globalement l'économie du pays et ça a fait aussi en sorte que bah, si l'économie tourne moins bien, les banques prêtent moins aussi, donc...
Et quand on sait que l'économie quand même de l'automobile en Inde, c'est... Ouais. C'est leur plus grand marché, hein, 9% du PIB quand même.
Oui, c'est énorme.
C'est énorme.
Ouais, ouais. Il y a la loi aussi qui a évolué alors depuis 2-3 ans là, à peu près. L'obligation que les voitures neuves respectent une norme d'émission de CO2.
Ouais, qui... Eux, ils suivent l'électrique. Enfin, ils sont aussi dans le délire Japon, Chine, tout ça. Ils aiment bien l'électrique.
Il y a le côté électrique. Je vais revenir dessus parce qu'on est loin de ce qu'on veut appliquer en Europe.
Ah oui, non,
mais rien que sur la norme Euro 6 que nous, on a appliquée en 2015, là, ils la mettent en service. Enfin, depuis 2 ans, ils la mettent en service. Et c'est dur pour le marché local parce que... on avait tendance, même nous constructeurs européens, à exporter des voitures en Inde qui étaient des modèles des années 90,
qui
n'avaient pas toutes ces normes-là, ou en version restylée, on va dire.
Eux, ils se mettent à avoir des normes aussi sévères que les nôtres.
Voilà, et il a fallu mettre à jour tout ça avec forcément une répercussion sur les prix. Ce qui a fait que la voiture en prix a augmenté, et donc forcément, si tu augmentes les prix, ça veut dire qu'il y a encore moins de gens qui l'achètent.
Ouais, c'est vrai.
Et puis la marge est basse, hein, quand même là-bas, parce que le prix moyen d'une voiture, c'est 5000 euros.
C'est cool.
Tu vois, chez nous, c'est 26 000.
C'est
là-bas, c'est
cool.
5000, tu vois.
Je suis donc, allé en Inde acheter une voiture.
Petite différence quand même, hein. On est bien obligé de faire des concessions quelque part si tu veux quand tu vends une voiture à 5000 euros. Oui, alors crash test, c'est.
Zéro.
Ouais, j'irais même moins 10. Si je passais à leur run cap, c'est un peu flippant, mais bon. En même temps, si tu sors pas de la ville ou que t'avances à 20 km/h,
c'est vrai que t'as pas besoin.
Ça va. Oui, tu parlais d'électrification. Alors, ils y pensent, l'électrification. Leur objectif, c'est de faire 30% en 2030. Quand nous, on va être à 100%, eux, leur objectif, c'est 30%. Mais bon, pour l'instant, c'est moins de 1% du marché. Et si tu veux une borne de recharge électrique,
alors oui,
2500 km hein, la prochaine, tu vois,
donc ça les a quand même en 6ème place. J'ai un petit top des voitures qui se vendent bien en Inde.
Oui.
La 6ème place, c'est une voiture électrique.
Ah ouais. Bah ça veut dire que ça commence à se développer.
Mais ça va se développer.
Mais t'as la voiture
plus vite
électrique,
que nous, en fait.
Mais tu peux pas l'utiliser.
Oui.
Pourquoi plus vite que nous?
Eh ben. Bah nous on a déjà du mal déjà, même si on en fait nous on l'impose.
Oui.
Eux c'est pas pareil, eux ils vont l'accepter plus facilement parce que bah comme tu l'as dit, la voiture c'est déjà pas ouvert à tous. Mm. Qu'elle soit électrique ou pas, ça reste toujours pas ouvert à tous dans l'immédiat. Hein.
Ouais, sauf que une voiture électrique à 5000 balles, c'est aujourd'hui c'est impossible quoi.
Ouais, mais ça change rien. Ils sont quand même plus enclins, j'ai l'impression.
Peut-être.
Ça monte. Mm. Je trouve ça monte.
Ok, bah faudra suivre la tendance ces prochaines années.
Oui.
En tout cas, c'est vrai que jusqu'à maintenant, il y a eu, on va dire, deux stratégies. Donc la première, c'est ce que je disais tout à l'heure, si tu vends des vieux modèles à moins cher, mais souvent encore trop cher, malheureusement. Par exemple, Ford hein, a tenté l'aventure et ils ont dû fermer l'année dernière. Ça fait pas mal de dégâts. Hein. Ils ont dû mettre, je sais plus, je crois que c'est 1400 personnes au chômage. Ça a été un petit peu compliqué pour eux. Et puis, il y a l'option, ce que fait Renault d'ailleurs en Inde, qui a implanté là-bas, hein, de développer une gamme spécialement pour le marché indien. Alors Renault, il représente 3% du marché indien, donc c'est pas ouf, mais bon, ils ont leur petite part de marché quand même. Ils s'en sortent, on va dire. Il y a quelques années, ils avaient sorti la Kwid. Vous avez peut-être entendu parler de cette voiture. C'est vrai ça avait fait un peu le buzz en France quand c'était sorti. C'était la fameuse voiture vendue à 3 000 € là-bas, et on pensait que peut-être on l'aurait en Europe. Alors évidemment, avec les crash tests, les renforts. Les Kwid ? Non, c'est Renault.
Non, c'est Renault.
La Renault Kwid, ouais. Non, on en avait pas mal parlé et on s'imaginait qu'avec les renforts de protection, etc., on allait arriver à une voiture à 6000 balles en France. En réalité, on en a eu une Kwid. Alors, on en a une Kwid, je veux dire même. Alors, elle est sous une autre forme, c'est la Spring de Dacia.
Ah oui.
En fait, la Spring de Dacia, c'est une Kwid qui a été remodelée, électrifiée, hein, et vendue sous Dacia, ce qui est assez logique parce que c'est la marque low cost de Renault. Donc, on a un petit bout de la Kwid indienne, quelque part, qui ressurgit en Dacia Spring. On peut compter aussi là-bas sur pas mal d'équipementiers européens qui sont installés. Hein. On a Michelin, on a Saint-Gobain, on a Mecaplast, Actia, bon, il y en a d'autres. Hein,
Techniquement, c'est les 4e mondiales d'importation de bagnoles. Hein. En 2020, c'est pas mal. Hein. 4e, t'es bien sur le podium.
Qui ?
L'Inde.
Quand tu dis importation, c'est-à-dire les
marchés. Ils importent des voitures ou des
oui.
pièces ?
Ok.
Je pense que c'est les voitures, mais. Oui, je sais, c'était les voitures que j'ai recherché, pas chercher les pièces. Et oui, ils importent beaucoup de voitures.
C'est vrai. Mais c'est vrai que pour vendre des voitures là-bas, ça, c'est quand même compliqué d'arriver à être rentable.
Mais c'est ça le truc en fait. On n'arrive plus à vendre nos voitures là-bas, en tout cas nous, en tant que Renault et tout ça.
Ouais.
Voilà. Par contre, on arrive à les importer, ça y a pas de problème.
Oui.
En les modifiant ou alors en les adaptant qu'à nous, en fait, si ça se trouve. Ils les vendent peut-être spécialement que pour nous. Genre, s'ils ont une usine Renault là-bas ou quoi que ce soit, tu vois, ils sont adaptés à nos normes.
Ouais, mais les Renault qui vendent là-bas, ils sont développés pour le marché indien. C'est
oui.
pas. Voilà.
Oui. Ça, en fait, ils ont deux marchés distincts. Ils pourront produire des bagnoles uniquement pour nous, qui ont uniquement l'exportation au final, et des voitures. Comme tu l'as dit,
pour le marché indien ou pour le marché, enfin ils arrivent à exporter
un peu légèrement local,
pas forcément local, mais disons dans d'autres pays émergents.
Ouais.
Certains modèles qui, encore une fois, avec les normes de crash test, etc., t'arrives à les exporter, mais dans des pays qui sont pas regardants. Après, bon, là on parle des marques européennes, mais t'as des marques, notamment Maruti Suzuki. Qui est indien-japonais parce que Suzuki détient 57% de la marque. Eux, ils plient le marché. Hein,
Bah, eux, ils ont 50% du marché.
C'est ça.
Rien quand je parle en 2020, c'est les seuls à dépasser le million. C'est le million.
Le million de voitures produites en 2020, c'est pas
ouais.
mal.
Ouais, c'est ça, ouais. 1,2 million.
Puis ils sont pas emmerdés avec la crise des semi-conducteurs parce qu'ils produisent des petites voitures pas chères. Qu'on en peut des semi-conducteurs, donc voilà, ils peuvent en produire à l'appel. Il y a Hyundai aussi qui se débrouille pas mal là-bas, je crois.
Hyundai, il est, tu le divises par deux et t'obtiens Hyundai.
Oui.
Le chiffre. Donc ouais, ils sont à 500 000.
C'est pas mal déjà.
C'est bien, c'est bien. Et ils occupent certaines places. Enfin, ils occupent deuxième. Ils sont deuxième. Mmh. C'est bien. Et après, tu descends bien bas. T'as Tata.
Oui.
Tata.
Alors Tata et Mahindra qui sont des marques locales, hein, des marques indiennes.
Ah, juste après Tata, c'est Mahindra, effectivement.
Et qui ont 15% de part de marché à eux deux. Donc,
ils ont fusionné ?
Ils ont fusionné les deux ?
Bah, je sais pas, pour moi ils sont séparés.
Non, c'est Tata et Mahindra, c'est deux marques différentes. Mais si tu veux, à eux deux, ils représentent 15% du départ de marché.
Oui, c'est vrai.
Donc, c'est vrai. Enfin, si on compare avec la France, nous, on est sur des constructeurs français qui dominent le marché français. Là-bas, clairement, c'est. Alors le Mahindra, non, comment ça s'appelait, Suzuki,
Maruti
Suzuki. Ouais. Bon, c'est indien japonais, tu vois, ouais. Mais bon, ça reste quand même majoritairement japonais. Là-bas, les marques indiennes sont en retrait. Cela dit, ils ont tenté des trucs. Je pense à Tata, par exemple.
Tata, ça commence, ça monte. En 2020, les chiffres ont monté de 12% quand même. Alors que ouais, Suzuki, ça fait que diminuer. Hein.
Ouais. Mais Tata, ils avaient, alors il y a quelques années, c'est pareil, vous avez peut-être entendu. Oui, la Nano, on en a déjà parlé hein, dans Starter, ça c'était dans les années 2000. Ça devait être la voiture du peuple indienne, avec un prix annoncé à 1 500 €. Donc en fait, l'idée c'était que tout le monde puisse l'acheter et que les gens remplacent leur scooter où ils étaient 6 dessus pour avoir une petite voiture. Seulement, ça s'est pas exactement passé comme prévu parce qu'ils avaient oublié un détail que j'ai d'ailleurs mentionné tout à l'heure, c'est que les Indiens, ils kiffent l'automobile. Et que c'est un vecteur social. Donc en fait, rouler en anneau, au début ça marchait. Ouais. Hein. Mais très vite, ça a été associé à en fait, t'es pauvre. Tu vois, c'était ça l'idée. Et puis bon, la voiture, si on peut l'appeler comme ça, parce que bon, par rapport à nos normes européennes, c'est pas totalement ça. Ça tenait pas la route. C'était pas confortable. C'était pas pratique non plus. T'avais par exemple t'avais le moteur qui était dans le coffre, comme la Twingo par exemple, tu sais, en dessous du coffre. T'avais le coffre au-dessus, mais le haillon, pour des soucis d'économie, il était fixe. Tu pouvais pas l'ouvrir, le haillon. En fait, t'étais obligé de passer par l'intérieur, de plier la banquette pour accéder au coffre et pour accéder au moteur aussi.
C'est même plus un haillon.
Non, mais ça avait la forme du haillon avec la découpe, tu vois, mais pas les charnières. Donc là, ouais, en termes d'accessibilité, c'était pas ouf. Puis ça avait tendance à prendre feu aussi, la Nano. Donc tout ça, on fait que bah du coup, il y en a eu de moins en moins de vendus. Ils ont arrêté de la vendre il y a, je sais pas, deux ans à peu près. Ils en fabriquent plus que sur demande maintenant. Hein. Et puis personne n'en veut. Hein. Ils préfèrent rouler en moto. Et quelque part, on les comprend quand t'as une voiture qui prend feu. Donc,
Oui, c'est vrai.
Donc c'est vrai que le marché est pas simple. Hein. Surtout qu'il se répartit en 19 constructeurs. Je crois que c'est ça. En 18, si on enlève Ford, je crois. Hein, ça fait. T'es en train de compter. Ouais. Alors, on est en train de compter. Alors attention. À 19
J'en ai 19, mais VW Group et Volkswagen, ça doit être pareil, non?
Volkswagen Group et Volkswagen, non, parce que non, Volkswagen, c'est que Volkswagen, alors que Volkswagen Group, c'est toutes les marques du groupe Volkswagen.
Alors donc, j'en ai 19, parce que... Enfin, dans mon tableau, il y en avait un, parce que Fiat, apparemment, en 2019, ils ont vendu 313 Fiat en Inde, et en 2020, zéro.
Oula.
Donc à mon avis, ça sortirait du jeu. Ouais. Ford, par contre, ils sont toujours dans là. Hein,
dans ton top. Mais ouais, mais parce qu'ils sont...
Ouais, mais ils sont vers la fin. Hein.
Oui, et puis Ford, ils ont arrêté fin 2021, donc c'est vraiment
peut-être
tout récent.
Ouais. Par contre, Kia, en 2020... Enfin, en 2019, ils commençaient, tu vois, ils étaient à 45 000. Et en 2020, ils étaient à 140 000.
Ouais, Kia qui progresse bien.
208% d'augmentation. Mouah, les Indiens ont l'air d'être Fiat de...
Fan de, ouais, de Kia, dit, ouais.
On l'air d'être Fiat.
Fiat, ouais.
On l'air d'être fan de Kia et de MG, notamment, aussi. Ils étaient à 15 000, 28 000.
Bah, MG, on rappelle, alors c'est plus du tout une marque anglaise, hein, c'était racheté par les Chinois, mais ils font des SUV électriques, et bon, apparemment, ça marche pas mal. En parlant d'électrique, il y a Tesla qui aimerait bien aller là-bas, sauf que Tesla, le problème, c'est que les voitures de 40 000 $ et plus électriques, ils sont taxés de 100% à la frontière. C'est un peu beaucoup, donc forcément, 40 000 $, si elle est à 45 000, bah, tu multiplies par deux. Ça commence à piquer, surtout quand t'as un prix moyen de 5 000 €. Et puis t'as PSA aussi qui revient sur le marché. Alors c'est même plus PSA, hein, c'est Stellantis, groupe Peugeot, Citroën, Fiat, etc. Et qui veulent revenir sur le marché. Ils y étaient il y a quelques années. Ils étaient partis parce que bah plus de sous, enfin plus de, ça rapportait plus. Et ils veulent revenir sur le marché. Apparemment c'est en cours quoi.
Je les vois pas.
C'est vrai. Ils apparaissent peut-être pas encore sur ton top, mais ils arrivent. Hein, je crois qu'ils c'est tout récent qu'ils sont arrivés. Donc si t'as un top 2021, ils doivent pas être encore dans le top. Mais quel est justement le on va dire le top 10 des voitures qui se vendent là-bas?
Qui vendent le plus. Ah, alors bien évidemment, la première c'est une Maruti Suzuki. La deuxième c'est une Maruti. Jusqu'à la sixième c'est des Maruti Suzuki. Ils occupent le top 6 Maruti Suzuki. Ils sont encore bien comme il faut. Alors la première c'est la Swift.
Oui, qu'on connaît la Suzuki Swift, connaît, mais qui ne vend pas des masses en France.
Non, pareil pour la Alto, on connaît, mais voilà.
Je Baleno, sais même ça, plus si pas, elle se vend encore, la Suzuki Alto. Elle s'est vendue, hein, en tout cas, mais je sais pas si elle est encore sur le catalogue, tellement elle est peu diffusée.
Dans ma tête, ça me parle, donc à mon avis, c'est qu'elle est passée. La Baleno, par contre,
La Baleno, on l'a eu aussi dans les années 90. C'était une compacte.
Un paquebot.
Non, pas un paquebot, mais compacte, et il y avait une version break qui était plutôt longue. Oui. Oui, alors oui. Berline compact, voilà.
D'accord.
Mais bon, sans aucun style, mais pourquoi pas. C'était banal au possible.
Après, en quatrième position, nous avons la Wagoneer.
Oui, chez Suzuki.
Ouais, j'ai toujours
Suzuki. Bah oui, toujours. Wagoneer, donc, qui est une Kekar japonaise. Pour le coup de ça, c'est un cube.
C'est vrai,
nous, on avait la Wagoneer, elle s'est vendue. Et on avait l'Opel Agila, c'était les binômes, c'était les mêmes voitures. Hein.
Ouais. Et après, ils ont la Désir.
Alors, Désir, moi, ça me fait penser au concept car de Renault dans les années 2000. Mais,
non, mais c'est la Z-I-R-E. Désir.
Ah, il n'y a pas de E, d'accord.
Non.
Okay.
Et puis c'est un Z à la place.
Ouais, mais c'était un Z aussi dans le concept car Renault, c'est pour ça. Il y a juste une lettre qui change.
En 6ème, du coup, c'est une électrique qui s'appelle la EECO.
Oui, prends
bien
son nom.
Ça sonne bien.
Électrique, ouais.
Et après, nous avons enfin autre chose. Hyundai.
Ouais.
Avec sa Hyundai Creta.
Creta.
Creta Thunder. Non,
est-ce
Creta.
Que quand tu... Ah, Creta.
Creta.
Creta, oui, Creta. Comment
Creta, ça serait marrant.
Creta, ça serait marrant. Mais j'avoue, Creta, tu... Ça serait ressemblant à crétin quand même quand tu roules en crétin. Je... Bah bon.
Tu roules en crétin. Après, du coup, comme j'en ai parlé, il y a Kia qui s'impose dans le marché avec sa Kia Seltos. J'ai jamais entendu parler.
Non, on l'a pas en France.
En même temps, Kia, c'est assez récent. On n'a pas trop de. Enfin,
ouais, mais on n'a pas ce modèle importé en tout cas.
C'est clair. Après, Hyundai. Alors, je sais pas si c'est électrique ça, mais Hyundai Grand i. La voiture s'appelle Grand i.
La Grand i.
Grand i 10.
Ouais.
Voilà. Je sais même pas un nom.
Bah nous on a les i20, les machins, mais on n'a pas de grand.
Non, non, d'où t'appellerais ça grand?
Alors que c'est une petite voiture.
Voilà. Je sais pas ce que c'est, ça serait vachement drôle. Ma voiture c'est une grand.
C'est juste pour paraître plus grand que ce que tu as vraiment.
Et en 10ème place, nous avons. Pour changer, Maruti Suzuki avec la Vitara Brezza.
Ah bah une Suzuki italien, Vitara, ouais. Ouais, c'est un petit 4x4 qui a pas mal marché en Europe, hein, le Suzuki Vitara dans les années 2000.
Ça me parle pas.
Enfin, quoi qu'il doit toujours exister, je pense qu'on va regarder s'il est encore au catalogue. J'ai les souvenirs du Vitara en tout cas dans les années 2000. Bon, c'est vrai que pour les marques étrangères, pour arriver à s'implanter en Inde, c'est compliqué. Mais
je pense pas qu'ils vont.
T'as tout intérêt par contre à t'implanter en Inde, c'est-à-dire de mettre des usines. Parce
ah oui.
que sinon, si tu mets des usines, t'évites les taxes déjà, donc ça t'évite d'être taxé à
100%. C'est vrai.
Il faut quand même, par contre, recruter de la main-d'œuvre, ce qui est.
Qualifié.
Bah, qualifié. Et clairement, ils sont pas aussi qualifiés que chez nous. Bon. Donc, c'est-à-dire qu'en sortie d'usine, ça fait des voitures qui sont moins bien finies.
Bah, des Tata Nano, quoi.
Oui, par exemple. Non, mais ça veut dire que tu peux pas produire en fait. Tu peux pas dire je produis en masse pour exporter dans d'autres pays, et par exemple les pays européens, ce qui ferait baisser les prix de production. Mais ça doit être quand même être sexy parce que tu aimes les voitures en Inde et donc du feu des voitures sympas. Tu veux pas des vieux modèles des années 90 qui sont vendus
oui.
là-bas. Faut que ça soit quand même bien équipé aussi.
Si tu fais des petites voitures électriques, je pense que t'as moyen de percer en Inde après.
Je pense que c'est une voie à suivre parce que si tu prends en considération tout ça et que les gens sont fans de bagnoles, etc., mais qu'il faut vendre tout ça très peu cher, je trouve que. En thermique, en tout cas, c'est quand même une équation qui est vachement difficile à résoudre.
Je suis. Oui. Oui.
Enfin, en électrique aussi, oui. Remarque, mais.
Oui. En électrique, c'est toujours pire de demain.
Ouais.
Mais. Ouais, c'est vrai. Mais l'électrique, je pense que ça a plus un gros avenir là-bas.
Bah, peut-être.
Ils sont plus enclins. Enfin, j'ai l'impression de. Nous, on a du mal. Hein, nous, clairement, on est très réfractaires, mais comme
ça. Non, mais il y a deux choses. C'est-à-dire que nous, en Europe, on a du mal pour deux raisons. C'est que, premièrement, on a un marché automobile qui est déjà. Comment on appelle ça ? J'ai pas le terme exact, mais on va dire que c'est un marché qui est.
Implanté depuis longtemps.
Oui, implanté qui est mature. Voilà, c'est un marché mature. Donc ça veut dire qu'en fait, on va remplacer sa voiture par une autre voiture.
Ouais.
Là-bas, on est encore dans la primo accession à l'automobile. Donc ça veut dire que si tu veux acheter une nouvelle voiture, si de la vendre en électrique, autant l'acheter en électrique. Alors que nous, ça veut dire remplacement.
Juste acheter une voiture du coup.
Déjà.
Donc peu importe ce que c'est, limite. Enfin, j'exagère, mais voilà.
Par contre, je pense que la plus grosse difficulté qu'on a aussi d'ailleurs en Europe, c'est que un véhicule électrique coûte aujourd'hui en tout cas
un bras,
un tiers plus cher qu'une voiture thermique.
Donc, mais après, ils les produisent peut-être
pour nous.
Ils les produisent en Chine et ils exportent juste en dessous. Tu vois.
Oui, mais peu importe. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, un produit électrique sera 30% plus cher qu'un produit thermique. Donc, quand t'as une voiture à 5000 balles, si t'as une batterie qui en vaut 4000, c'est-à-dire que le prix de ta voiture
6500, c'est tout.
Ouais, 6500, c'est énorme pour les Indiens.
Ouais, je sais, mais
donc, tu vois, c'est.
S'ils ont que ça.
Bah, si t'as que ça,
comme c'est un pays qui se développe bien.
Ouais, faut espérer pour eux qu'ils puissent développer ça. Et peut-être que c'est la solution pour les pays européens aussi de développer le secteur électrique, parce que c'est vrai que sur le thermique, ils ont pas, si tu veux, ils ont pas suffisamment de parts de marché pour produire en grande quantité et baisser le prix des véhicules. Contrairement à par exemple Suzuki Maruti qui produit tellement de voitures que du coup ça va quoi. Nous on n'a pas ça et c'est la seule solution pour moi quand tu vends une voiture à très peu cher, c'est de produire en hyper grande quantité pour que ça puisse pour que tu puisses être rentable quand même. C'est un peu l'idée hein, ouais.
Je comprends. Voilà. Donc en Inde, en tout cas, si vous voulez rouler en Inde, pensez Suzuki, je pense. Hein.
Si vous voulez rouler en Inde, prenez un taxi ou ne vous risquez pas à prendre
un
vélo. Volant.
Un deux roues, peut-être, c'est peut-être plus pratique, effectivement.
Alors c'est plus pratique, mais tu peux te faire buter aussi, hein, oui. Facilement.
Après, tu roules à 20.
Je sais pas ce qu'il faut.
Des trois roues aussi. En Inde. Il y en a. Oui. Il y a un marché là-bas.
C'est vrai.
Starter, le garage.
Ce soir, dans le garage, on va parler d'un cabriolet noir.
Non, c'était un taxi de base.
Ah oui, alors justement, si on traduit black cab, ça fait cabriolet noir.
Et mais cabriolet, ça vient pas des. Alors, je me suis penché. Enfin, j'ai vu une info en fait sur le mot cabriolet. Et cabriolet, ça vient même pas des voitures. Ça vient des calèches,
oui.
Et des. Je sais plus comment ça s'appelle, carrosses.
Exactement.
Et ainsi de suite.
Parce que à l'origine, dans les années 1800.
Cabre, c'est un terme, référence
vrai.
Au cheval.
C'est vrai. Mais à l'époque, c'était des calèches. Ouais. Voilà, avant qu'il y ait des taxis motorisés. Bon, là,
mais
on remonte.
Hein, mais oui.
Et tu sais pourquoi noir ?
Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est par rapport à la législation.
Non.
C'est un mythe.
La réalité.
Non, la réalité, c'est parce que c'est moins cher, j'imagine.
Oui, c'était moins cher. Maintenant, voilà. Mais avant, rappelle-toi des Ford T, par exemple, au départ. C'est pareil,
oui,
c'était toutes noires. Toutes la même couleur et toutes noires parce que le noir était la couleur la moins chère à
moins
produire.
Cher, ouais, c'est
donc, c'est pour ça que c'était des black cabs à l'origine. Par contre, en 1948, comment on dit ? Manganese Brands Holdings.
À tes souhaits.
Ouais, c'est la marque se met à fabriquer l'ancêtre du taxi londonien qu'on connaît aujourd'hui dans les rues de Londres avec le FX3 avec son moteur Austin et ça devient très rapidement le taxi qu'on voit le plus, surtout depuis l'arrivée du diesel en 1952. Alors c'est marrant parce que c'est un cas unique en Angleterre, c'est le fait de fabriquer un taxi pour être un taxi. C'est-à-dire que normalement,
pour un taxi.
Oui,
ouais.
C'est ça.
Normalement, c'est des voitures de série.
De série, tu prends une grosse berline ou une fourgonnette que tu vas transformer en taxi pour les besoins de taxi.
C'est le culte du taxi.
C'est vrai. Mais en fait, disons que pour que ça marche, il faut que tu produises en très grande quantité et que ça soit marché. Enfin, il faut que ça soit rentable, je veux dire. Et là, pour le coup, ça l'est hein, pour les taxis anglais. Ils en ont vendu des pelletés.
Ils ont des 30 entreprises qui font que ça. Et enfin, même, ils s'alliaient hein, au début. C'était un. Comment t'as dit la société ? J'ai oublié.
Alors, attends,
c'est la société de carrosserie.
Manganese Brands Holdings.
Ah ouais ?
Ouais.
Eux, c'est la société de carrosserie, du coup.
C'est ça.
Je crois, eux, ils font la carrosserie. Ils s'allient à quelqu'un d'autre qui fait la voiture en elle-même, la conception et tout ça. Et ils prennent le moteur chez un autre.
Oui.
Chez Austin, notamment.
Bah, au départ, ouais.
Donc, tout ça, pouf, t'obtiens. Taxi.
Des chocs à pic. Taxi londonien. Bon, après, il a pas mal évolué, hein, quand même, ce taxi, hein, Teddy.
Oui. Non, bah si.
Alors, pas
même.
Forcément dans le look, parce que c'est vrai qu'on retrouve encore aujourd'hui les.
Essayer de garder le même style, la calandre devant. Mais tu sais, t'as plus les garde-boue. Moi, je trouve ça dommage.
Les ailes comme la deux chevaux, là,
qui
dépassent.
Ouais. Garde-boue.
Oui, parce que ça faisait 13 années 50, tout
ouais.
ça. Mais,
mais c'est vachement plus fun.
Oui, c'est vrai.
Donc, t'as ça sur la FX3, ouais. hein, notamment. Ça, la petite calandre devant rectangulaire. Rectangulaire debout. Enfin, un rectangle debout.
Un peu à la Rolls-Royce.
Un peu à la Rolls-Royce, mais très sympa, des phares bien ronds et tout ça. C'était cool, elle était cool la FX3. Donc juste après, t'as la FX4 mm-hmm. qui sort.
Tu dirais que c'est des effets spéciaux, tu sais, les FX.
C'est vrai que ça sonne un peu... C'est tendancieux. La FX4, c'est la plus célèbre hein, de ces bagnoles. Mm.
C'est celle même des elle... années 70-80, quoi.
Ouais, c'est celle qui crée le mythe autour des taxis londoniens. C'est celle qu'on voit partout, hein, en pop culture. Mm-hmm. Les autres, on s'en bat les couilles.
Non. Oh non, depuis, il y en a eu d'autres modèles.
Oui, ouais. Il y a eu 75 000 de produits de FX4. Mm-hmm.
Ce qui est énorme, parce que c'est que du taxi.
Pour un taxi, ben, ouais. C'est énorme. C'est aussi le premier taxi de la lignée à être en 4 portes. Mm-hmm. Avant, ils en avaient que 3.
C'est-à-dire qu'il y avait les deux portes avant.
Non,
y...
deux portes arrière.
Deux portes
une
arrière.
Porte avant pour le conducteur. Et l'autre côté, c'était pas une porte, c'était un compartiment à bagages.
Alors, il y a toujours le compartiment à bagages, mais avec une porte.
Oui.
Tu vois.
Ou non.
Si.
Il est à l'avant, tu crois?
Ah oui?
Bah, du coup, ils ont mis une porte passage. Ouais, bah, ils ont mis une quatrième porte pour le coup.
Ouais, bah, pour accéder plus facilement au compartiment à bagages, qui est pas con.
C'est, hein, vrai que c'est logique. Hein.
Tu ouvres ta porte et tu mets tes bagages parce qu'à l'arrière, ils ont une trappe, tu sais, un peu comme les Austin Mini.
Ouais.
C'est juste une boîte à gants, en fait, où dedans, il y a déjà tout l'Azirail pour le complément de la rampe pour les handicapés qu'il y a.
Oui, parce et, qu'effectivement, dans la FX4, c'est à ce moment-là aussi qu'est tombée la législation, il faut un accès handicapé.
C'est ça.
Donc, ils ont
et donc, il te reste une boîte à gants, en gros, à l'arrière. Donc, tes bagages, tu les mets à l'avant à côté du chauffeur, donc bah, vu qu'ils conduisent à droite, c'est à gauche, hein, pour la gauche.
C'est aussi là que tu as eu la nouvelle imposition sur le FX7. Il est vraiment important dans le sens il y a eu des législations qui ont été passées au moment de sa sortie, enfin, ou peut-être un peu avant, sur l'angle de braquage notamment.
Oui.
Parce que les taxis londoniens, ils sont régis par des règles vachement strictes, ils veulent pas n'importe quelle voiture en taxi en fait.
Bah
donc,
non,
forcément, il y en a
côté
peu,
pratique déjà.
Ouais, et ben, dis-toi qu'un taxi londonien, ça doit pouvoir faire demi-tour dans. Sur une route de 7 mètres de large.
Ouais.
Je...
Ce qui est la
moi,
largeur
je le fais pas,
des routes londoniennes.
Ouais. Je... Entre deux murs, hein, c'est même pas des routes, c'est entre deux murs.
Ouais.
Je sais pas si je le tente, tu vois. Moi. 5 mètres et des bananes, je
avec
sais pas.
Avec une
si je le tente.
Alfa Romeo 166, non.
Ouais, voilà,
ça
donc...
ne marche pas.
Donc ils arrivent à faire ça. Il y a aussi la FX4, elle a évolué. Il y a eu plusieurs FX4, hein, mais la plus célèbre d'entre elles, pour les plus connaisseurs, elle avait un moteur Nissan.
Ouais.
Donc ils ont changé. Hein. Les premières FX4 avaient des moteurs Austin. Et
donc
les
des moteurs anglais, et après on est passé sur un moteur japonais. Quoi.
Oui, ouais. Mais des 2 litres 7 quand même.
Oui, oui, bon, gros cylindrée.
Non. C'est énorme.
Alors, gros cylindrée, ce qui est marrant, c'est que en fait, attention, c'est pas des voitures de course, hein, loin de là. C'est
non,
des moteurs diesel tranquille, pépère, mais justement qui tournent au
peu,
ralenti ou... parce que gros cylindrée, donc ils tournent au ralenti et c'est fait pour durer extrêmement longtemps. En fait.
C'est réputé incroyable ces trucs, indestructibles même pour certains. Je sais pas, j'ai jamais essayé d'être un taxi, donc je tenterai pas. Si aussi de la FX3 à la FX4, il y a au niveau du look. Quelque chose qui a changé, c'est malheureux. Il y a moins de chrome,
ouais.
Il y a beaucoup moins de chrome déjà.
Ça correspond aussi à la tendance du moment, c'est à dire que quand on arrive dans les années 80,
les poignées,
globalement, on est passé en plastique. Voilà,
plastique. Et
c'est
la calandre,
moderne.
La calandre, par contre, qui je trouve qui a changé et en bien, la calandre avant c'était un petit rectangle, genre qui faisait, je sais pas, 20 cm de largeur.
Ah ouais.
Là c'est un gros carré.
Ouais.
Là vraiment.
Et on impose.
Voilà, à l'American, si j'ose dire. Là, ça envoie du lourd. Juste après celle-là, un truc beaucoup moins mythique, hein, le TX1,
ouais.
Qui est quasiment fait de plastique de partout.
Oui.
C'est très très moche.
Alors, j'ai du mal avec le moins mythique dans le sens où en fait chaque génération de taxis anglais quelque part a quand même marqué.
Tous les taxis anglais marquent l'univers
anglais,
des taxis.
Ouais. Oui.
Par contre, tu dis un anglais, le TX1, c'est... Non.
Non, c'est peut-être pas le modèle préféré.
C'est... Non, jamais.
Ouais.
C'est même pas un modèle qui existe, le TX1. Non, ouais. Pour eux, c'est une merde qui est sortie. C'est méchant, mais c'est vrai, elle n'est pas durée longtemps en plus. Mais bon, en plastique de partout, des phares normales, des jantes dégueulasses.
Des enjoliveurs même.
Oui, des enjoliveurs, pardon.
Ouais. Des jantes en tôle, peut-être.
Ah, je sais pas si c'est des...
Bon, ils sont pas en alliage. Hein.
Ouais, non, ouais.
Non, c'est peut-être des jantes en tôle, hein, simplement.
Après, si vous avez déjà pris le taxi anglais, vous avez toujours. Vous savez, le petit truc sur les taxis par chez
oui.
nous, c'est au milieu de la bagnole, le truc taxi.
De taxi, ouais. Eux, c'est à l'avant.
Eux, c'est tout à l'avant.
Ouais. Juste au-dessus du pare-brise.
Ouais, c'est marrant. Ils l'ont gardé, hein. Ils le gardent jusqu'au bout, je crois.
Oui, il y a pas mal, en vrai, même si le design a évolué, ils ont gardé quand même pas mal de codes stylistiques qui sont les mêmes. Hein.
C'est aussi à partir du TX1 qu'on voit les premières pubs apparaître sur les taxis. avant les taxis, ils étaient full noir, enfin full noir parce que c'était souvent
noir. Noir ou une autre couleur, mais c'est vrai que historiquement, ils ont gardé quand même très souvent le noir. Voilà.
Là, ils commencent à mettre des pubs et ça va être encore pire avec le TX2. Le TX2, il va y avoir de partout des pubs, enfin. Limite la bagnole entière va être recouverte d'une pub.
Ils sont sponsorisés en fait, c'est ça l'idée.
Ils sont sponsorisés, ça leur rapporte plus. Alors il est franchement pas mieux que le TX1, mais bon, c'est difficile. Je les trouve moches. Je vais pas vous mentir, je les trouve vachement moches.
Ah, je sais pas, moi j'ai souvenir parce que bon, c'est ceux que j'ai connus. Enfin, moi j'ai pas londonien, mais des années 90, 2000, c'était tous. Enfin, il y avait beaucoup de TX2 ou après le TX4, mais.
C'est peut-être le TX4 qui est un peu plus joli et qui a pas l'apparence plastique.
Ouais.
Parce que autant le TX2, t'as vraiment l'impression que c'est en plastique partout. Hein. Voilà. Le TX4, donc il y a pas de 3. Hein.
Pourquoi
à cause d'une norme d'antipollution. La norme s'appelait antipollution Euro 4.
Ouais.
Du coup, ils se sont dit, tiens, clin d'œil, on va faire un TX 4. Pas 3, mais 4.
C'est chelou d'appeler son taxi en fonction de la norme
antipollution. C'est l'Angleterre.
Que tu... Oui, bon.
Ils sont bizarres, ces Anglais. De...
Bon, je dis pudding, je suis désolé.
Ah ouais, ils sont dégueulasses, on va sortir. Toujours les mêmes chantes dégueulasses. Hein. Ils ont pas changé depuis le TX 2.
Ouais.
Dans TX de FX. Non, TX.
Oui.
Bon. Je vais réussir à me perdre là-dedans.
FX4, TX1, TX2, TX4.
Oui. Ouais. Donc on en revient quand même à une voiture un peu plus jolie, un peu plus esthétique, un noir beaucoup plus brillant.
Mm-hmm.
C'est voulu, je pense. Ça se regarde, ça se regarde. Il y a des poignées, on les voit. Ils ont changé la couleur des poignées dans le sens où si ton taxi est noir,
ouais,
tes poignées vont pas être noires.
Ah, oui, ok, c'est gris. Pour les voir quoi.
Tu les vois cette fois-ci.
Ok.
Je trouve que ça rajoute un petit truc sympa.
C'était bigleux, ouais.
Oui, c'était bigleux, ouais. Oh, mais en chrome, fallait vachement pas être bigleux. Tu le voyais direct. Et après, tu as. Je sais plus le TX combien. Non, c'est même plus un TX. C'est un truc électrique.
Oui.
C'est récemment, ça, pour le coup. Oui. Ouais.
Mais récemment, et ça s'est développé très rapidement parce que maintenant, à Londres, avec les normes européennes et les normes londoniennes, tu. Quand tu achètes un taxi, enfin quand t'es chauffeur de taxi,
la réglementation européenne.
Non, mais ils sont très stricts. La ville de Londres a depuis pas mal d'années imposé des péages et puis des voitures et des zones comme l'équivalent de nos ZFE, hein, nos zones faibles émissions. Donc en fait, maintenant, quand tu es chauffeur de taxi, si tu achètes un nouveau taxi, il doit obligatoirement être électrique. Ouais. T'as plus le droit d'acheter un taxi diesel. Ah,
c'est vrai.
Il est comment ce dernier taxi?
J'en parle. Voilà. Bon Deluxe, ça va. Deluxe, ça va. Il se regarde. Ouais. Mais bon, ça reste électrique.
Alors moi, j'ai vu la documentation technique et je crois que l'autonomie, c'est 70 km. Et ça se recharge en 40 minutes. Donc ça veut dire que dans ta journée, après tu vas me dire
que tu fais une pause. 100 km à faire, t'es obligé de faire attendre le gars 30 minutes.
Il faut anticiper le truc, mais ça veut dire qu'un chauffeur de taxi. Alors non, tu fais pas des courses de 100 km, t'es intramuros à Londres en principe.
Dommage.
Mais ça veut dire que sur une journée, tu perds à peu près 80 minutes rien qu'à recharger ta voiture. Voilà, donc pour rentabiliser le tout, c'est pas forcément évident. Par contre, c'est vrai que toutes ces générations de taxis, et même le dernier, ont un look qui se ressemble à un look emblématique.
Bien sûr, parce qu'ils ont essayé de garder la même charte, toujours un truc assez cubique en vrai.
Ouais, c'est ça. Voilà. Avec le même sens pratique, hein, c'est-à-dire une garde-toit qui est assez haute, ibraque court, tu le disais tout à l'heure.
Dedans, c'est spacieux.
Ils sont super fiables, alors je sais pas pour le dernier, mais en tous les cas, les gros moteurs diesel de litre 5, ça a marché, hein, de litre 5 ou de litre 7 même. Ouais. Ils sont pratiques parce que tu as une rampe, on le disait tout à l'heure, pour les handicapés, qui est à l'arrière et qui se déploie. Qui s'escamote sous le plancher, t'as des strapontins parce que c'est vrai que bon en France encore une fois on a des berlines qui sont changées en taxi donc ça veut dire que tu as 3 places.
Oui.
Voilà.
C'est pas forcément adapté. Enfin,
là-bas
pas
tu peux en avoir 5. C'est-à-dire 3 sur la banquette arrière plus 2 strapontins et t'as un des strapontins qui se tourne direction l'extérieur, ce qui fait que même si t'as 96 ans, tu peux monter et descendre facilement de ton taxi. Donc ça c'est pas mal.
Cool.
Et l'accoudoir de la banquette, il se rabat et ça fait office de réhausseur pour les gamins. Tu vois, ça a été conçu pour.
Ah,
voilà. Et l'assise de la banquette se rehausse, enfin comment dire, se rabat mais en hauteur, ce qui permet de charger le fauteuil roulant à l'intérieur. Donc tout a été pensé. Pour sa fonction de taxi, et ça c'est pas mal. Il y a aussi la paroi hein, qui sépare le conducteur des passagers. ce qui est pas mal non plus parce que ça évite les agressions. Et puis pour se parler, tu as, alors c'est, ils appellent ça l'intercom. C'est en fait c'est un interphone.
C'est un bouton où tu appuies dessus pour parler.
Quoi. C'est ça.
Comme nous.
Et tu as un petit haut-parleur et puis avec des micros à l'arrière et des micros à l'avant pour converser entre l'un et l'autre. D'ailleurs, c'est le seul haut-parleur que tu as à l'arrière parce que t'as pas la radio. En fait, à l'avant ils ont une poste radio avec les haut-parleurs.
Bah c'est comme ça, il peut écouter ce qu'il veut le chauffeur.
Le chauffeur peut écouter ce qu'il veut et il peut écouter Jules tranquille sans emmerder les passagers à l'arrière. Donc c'est pas forcément plus mal.
Après, si vous voyez un chauffeur écouter Jules, changez de taxi.
Oui, peut-être que c'est ce qu'il faut faire.
Surtout en Angleterre.
Quand t'es sur un VTC, oui, c'est vrai.
Ce qui a très mauvais goût.
Donc globalement, c'est vrai que l'aménagement est bien conçu dans un taxi anglais.
Tellement
tu
bien.
Tu sens que c'est fait pour durer.
Oui,
voilà. Ah ouais, par contre, c'est clairement pas haut de gamme. Hein. C'est même un peu cheap. La planche de bord, par exemple.
C'est pas faux.
Elle est en faux bois. C'est du plastique faux bois, tu sais. Vraiment, ça fait pas haut de gamme. Les boutons de ventilation, on dirait du Playmobil. Il n'y a aucun superflu. Tout est en plastique dur. Donc, tu vas me dire, ça a l'avantage de résister dans le temps. Le tableau de bord, t'as qu'un pauvre compteur de vitesse, la température d'eau et la jauge de carburant. Il n'y a pas de contour, par exemple. Il n'y a même pas de voyant pour les veilleuses ou les codes. T'as qu'un voyant pour les phares, comme dans ma 4L en fait. Tu vois, l'équipement d'une 4L.
C'est minimaliste pour consommer le moins ou un truc du genre.
Bah, pour. Ouais, puis peut-être le prix de vente, j'en sais rien. Mais bon, par contre, t'as un extincteur qui est fourni de série, on sait jamais si ça prend feu. Et puis, très souvent, alors à 90% du temps, c'est livré en boîte auto parce que c'est plutôt pratique quand tu circules qu'en ville d'avoir une boîte automatique. Aujourd'hui, il y a 23 000 taxis anglais en circulation, ce qui est énorme.
En Angleterre ?
Oui. En Angleterre, ça fait 11 taxis pour 1000 habitants. Alors que chez nous, tu vois, en France, on est à 4 taxis pour 1000 habitants. Donc, il y a vraiment une importance, si tu veux, de ce genre de transport. Et c'est marrant parce que moi, je pensais que le prix d'un taxi en Angleterre était vachement moins cher qu'en France. Et c'est pas le cas.
Non, c'est vachement cher. C'est
très cher.
C'est presque luxe. Oui. C'est 3 livres déjà de base. Ouais. Et après, t'as le prix effectivement en kilomètres.
C'est un des plus chers européens, en tout cas. Je crois avec Amsterdam, c'est à peu près l'équivalent. Mais ça veut dire que c'est vraiment culturel en fait. T'as l'habitude de prendre le taxi là-bas. Mais par contre, c'est pas extrêmement cher. Pour moi, c'était quelque chose, tu vois, qui était aussi populaire. Mais c'est populaire, mais il faut du.
Ce qui est marrant, c'est que. Alors, je pense que c'est pareil en France. En règle générale, les taxis, c'est pas souvent les Français qui le prennent. Ou alors, c'est souvent les touristes.
Oui. Oui.
Moi, je vois ça comme ça. En fait, t'as deux catégories de gens qui prennent le taxi. T'as les touristes ou les personnes qui sont handicapées pour se déplacer.
Ouais. Oui, tu veux dire qu'à Londres, ça serait. En gros, c'est comme les gondoles à Venise, quoi.
Je pense que oui. Parce qu'il y a beaucoup de trucs, hein. Enfin, pas attrape-touriste, mais un petit peu quand même. Hein.
Oui.
Comme par exemple.
Bah, c'est tellement mythique, si tu veux, ce taxi anglais, que quand tu vas en Angleterre, tu te dis on va prendre un taxi anglais.
Bien sûr, comme par exemple à Belfast.
Ouais.
Alors c'est sympa aussi, hein, mais bon, ça a coûté une blinde, j'imagine. Il y a le Black Taxi Tour à Belfast, hein, pour le coup. Grosso modo, tu te balades dans la ville, dans ton taxi noir, parce qu'il est forcément noir, hein. Ouais. Ceux de Belfast sont forcément noirs. Tu te balades et t'as une visite un peu touristique. En gros, le taxi, il fait aussi. Il fait de l'histoire. Il te raconte des trucs. On passe devant des musées. On passe devant des.
Et c'est un chauffeur de taxi traditionnel qui conduit ou c'est un mec qui a été.
C'est un chauffeur de taxi qui est historien en même temps.
Ouais, c'est marrant, voilà.
Il te fait de l'histoire aussi. Et il te fait passer aussi devant le chantier naval du Titanic, notamment.
Regardez, on a construit un bateau insubmersible. Quelle réussite!
Vous le voyez? Non, bah non, c'est normal. Voilà, donc il y a ça. Et j'ai même vu une autre information. Vous pouvez aussi visiter des lieux de tournage de Harry Potter avec un taxi.
Ah oui?
Ouais, il vous fait ça. Mais alors, j'ai le prix pour le coup, c'est 230 balles. Je sais pas combien il y a de sites. Et si c'est juste pour passer devant.
Ça fait cher, ouais.
Ouais.
Et alors, ça, c'est pour visiter des sites mythiques. Mais est-ce qu'il y a des films ou des séries où le taxi anglais est la star?
Alors oui, souvent dans les films, effectivement, hein, comme je l'ai dit, c'est le TX4, non le FX4, oh là là, je vais y arriver. Le FX4 qu'on voit, c'est pas la bonne ardoise. Je fonctionne avec des ardoises, si vous voulez.
Oui.
Voilà, le premier, c'est chez Pixar, on en a parlé, Cars.
Oui.
Dans Cars 2.
Où il y avait déjà, c'était quoi? C'est une Radiant Robin qui avait déjà.
Exactement.
Et il y a aussi un taxi anglais.
Et il y a un taxi londonien qui n'est pas dit taxi londonien et qui s'appelle Chaussy Phare. Sa petite particularité, c'est que quand le héros McQueen il va voyager dans plusieurs pays pour faire des courses, quand il va être en Angleterre, le gars va lui dire « Ah, moi, je connais tous les raccourcis, je connais tous les sites, tous les lieux par cœur. C'est mieux que quiconque. »
Oui, ah oui.
Un petit ref justement au taxi qui forcément, en Angleterre, ils ont des règles.
Oui.
Ils ont 27 000 lieux à connaître par cœur.
Oui, j'ai vu ce reportage.
Ils ont 3 ans à peu près de formation pour l'apprendre.
De 3 à 5 ans, ouais, c'est ça. Et en fait, et oui, ils passent leur semaine sur des cartes à l'ancienne, hein, parce qu'ils n'utilisent pas du tout de GPS.
Non.
Ils sont sur des cartes comme ça à apprendre
c'est
les
limite,
lieux.
C'est limite, t'as pas le droit au GPS. En fait, quand t'as un taxi,
c'est la réputation.
C'est toi que tu dois connaître, pas le GPS.
Et t'as le mec, donc le responsable de la formation, il te dit, bon, alors, vous voulez aller de ce point-là à ce point-là,
quel est le
donnez-moi
plus rapide,
tous les itinéraires possibles pour y aller. Alors t'es là, bon, alors je prends Westminster Avenue, je tourne à la deuxième à gauche, je prends ça, et tu dois le connaître ça sur le bout
et
des doigts.
Et bonne chance. Voilà, donc
C'est assez sélect, hein, en vrai, pour être chauffeur de taxi là-bas.
Ça explique peut-être le prix, hein, parce que...
Oui.
Enfin,
ah oui, parce qu'en plus, ça te coûte... Ouais, ça te coûte, je crois, c'est 6000, 7000 balles la formation. Donc, ouais, c'est. Et puis, plus après la licence de taxi, plus.
Le
etc.
taxi.
Le taxi, voilà, ouais.
On les voit aussi dans un film. Je crois qu'il est américain, mais ça se passe en Angleterre. Ça s'appelle Kingsman. Uh-huh. Connais peut-être ça, des espions anglais?
Pas du tout.
Ok, bah, ça pourrait être clair, je pense. Tu vois, des taxis anglais, parce que forcément, ça se passe en Angleterre.
Oui.
Enfin, c'est logique. Moins logique. Ou peut-être, ça dépend. On voit un FX4 dans Les Seigneurs. Un
des
film
anneaux.
Français. Non, pas des agneaux. Les Seigneurs, c'est un film français. C'est une comédie, enfin, je sais pas. Un film avec des humoristes, principalement avec Joey Star, c'est pas un humoriste.
voilà, si, c'est drôle. Hein, ouais, quand il tape sur la gueule. Bah.
T'as Eric et Ramzy. Bah, il joue un défenseur qui défonce les joueurs, évidemment.
Il
est dans son rôle. Il y a
Eric
Mallet,
Ramzy, Gadel
Ramzy, José Garcia. Mm-hmm. Effectivement, j'ai une belle image où je vois un FX4 derrière lui.
Ok.
Et on va finir avec un film que je croyais vieux, mais qu'en fait est super récent, genre 2013 ou 2014, qui s'appelle Alfred et Jacqueline. Jacobine.
C'est pas Jacqueline. Alfred et Jacqueline.
Non. Ça sonne vachement vieux. Hein.
Ouais, ouais.
Et du coup, ça raconte l'histoire d'amour d'un couple hein, qui se sont rencontrés dans un taxi londonien qu'il avait acheté, le gars. Enfin, non. Enfin, si, il l'a acheté après. Mmh. Du coup, il a vécu son histoire. Enfin, ils ont fait un tour du monde avec le taxi et tout. Et à la fin de sa vie, enfin, je sais pas, il est vieux. Il voit le taxi dans sa fenêtre abandonné dans son garage, j'imagine. Mmh. Voilà. Il dit, je vais retaper, et puis oh voilà. C'est une histoire d'amour entre lui, sa femme et le taxi, quoi, grosso modo.
C'est un trio.
c'est un trouble.
Exactement. Et le FX4, tu en as eu combien de produits, t'as dit
75 000.
75 000, ouais.
Ouais. En sachant que, comme tu l'as dit, il y en a 20. Combien en ce moment en circulation
25 000 là, qui. Non
25 000
c'est... Ouais, 23 000. 23 000.
Je pense pas que le chiffre a forcément beaucoup augmenté.
Non, parce qu'en fait, c'est
temps.
Un renouvellement de licence, ouais.
Donc vous dites qu'il y a eu 3 fois. 3 fois d'été FX4 en Angleterre, c'est énorme.
Ouais. Et si on rêve d'avoir un taxi anglais en France sans passer la formation de chauffeur d'anglais je sais qu'il y a, oui, y a un importateur en Bretagne hein, qui s'appelle Black Cap Company, donc tu peux aller sur le site et trouver.
Tu peux aller sur le site et ils te proposent des voitures qui ont déjà été servies, évidemment. Pour pas cher.
Oui.
Enfin, pour pas cher. Pour 12 000 balles, donc oui, si, c'est pas cher que ça. Et tu peux aussi. Alors, ce qui est développé par chez nous, c'est pas tant les acheter. Parce qu'effectivement, à 12 000 balles, tu peux en acheter un.
Oui, donc
c'est le prix que j'ai
taxi
trouvé.
D'occasion qui a déjà servi en Angleterre.
Et révisé, tout ça.
Révisé et adapté aussi, parce que. Alors, c'est des détails, hein, mais par exemple, vous prenez les
le
phares.
Volant.
Non, le volant, il reste toujours du mauvais côté. Mais les phares, par exemple, bah, tu sais, l'éclairage, forcément, sur les routes françaises, tu éclaires du côté du fossé. Donc, ils sont réglés pour éclairer de l'autre côté. Il y a des petits aménagements comme ça qui sont faits c'est pour ça. Qu'ils soient aux normes françaises.
Par contre, ce qui est intéressant, parce qu'effectivement, on les achetait. Alors, vous devez être très peu à vouloir acheter un taxi en France.
Ouais, mais cela dit, ça, c'est quand même bien sympa d'avoir ça.
Oui, mais c'est le service de location qui marche le mieux pour le coup.
Ah, bah ouais. Tu
parce
pour un mariage
gens, pour un mariage, pour un film, pour n'importe quoi, mais oui, surtout pour les mariages, genre, pour des événements X ou Y, c'est vrai que ça fait bien d'avoir un taxi londonien.
Ouais.
Genre, je sais pas, t'arrives, t'es le président d'une asso, t'as, je sais pas, l'assemblée annuelle, alors t'es une grosse asso quand même.
Tu veux qu'on fasse ça pour une des
tu arrives, tu arrives, toi, en tant que président, dans un taxi londonien.
Ouais, j'avoue, c'est la
ça
classe.
Ça rejette. Hein.
Ouais, ça fait un peu mégalo quand même, mais.
J'ai dit grosse asso de base, on est que deux.
C'est vrai,
on n'est pas deux dans l'asso, mais quand même. Donc oui, le service de location, ça vous reviendra moins cher et ça vous évite d'acheter un taxi londonien. Parce que si vous voulez pas être taxi, je vois pas l'intérêt. Si, il faut être fan de taxi, quoi. Mais
oui. Bon, c'est... Ou de l'Angleterre. Je pense que si t'as grandi, par exemple, t'as grandi à Londres,
mais tu peux acheter
t'as pris
la miniature.
Le taxi. C'est vrai que la miniature, ça coûte
la
moins cher encore.
T'achètes la cabine rouge en miniature aussi, tu achètes pas en grand.
Oui.
Si, je veux la cabine rouge.
J'ai une cabine téléphonique dans mon salon, merde.
Et après, je veux le bus.
Bah, le bus, évidemment. Mais il y en a, c'est pareil, les bus anglais qui en font des restaurants, qui en font des choses sympas. Ça, c'est...
Mais ça, c'est... ça me paraît presque logique en France, parce que tu vas pas te balader en bus londonien en France.
Et pour l'aménager en habitation, ça peut être drôle aussi.
Ouais,
j'aime bien ce concept.
Oui, non,
très vrai. Beau camping-car en bus anglais. Mais en tout cas, c'est vrai que si vous avez ça, vous passez pas inaperçu en France. Parce que si vous êtes à Londres,
vous pêchez beaucoup.
Peut-être. Et puis il y a de la place à l'arrière. Attention.
Auto, moto, c'est Starter sur Indestar.
Et c'est nulle part ailleurs, évidemment. Bienvenue chez nous, bienvenue sur Indestar et bienvenue dans Starter en ce lundi soir. Avec des histoires insolites, enfin une histoire insolite à vous raconter. Peut-être que vous avez vu passer l'info. Alors c'est vrai que moi quand je vois des photos d'une belle voiture en feu, déjà sur les réseaux sociaux, tu sais tout ça. Déjà je pleure. Voilà.
Ça provoque un néon naturel. Après, c'est Lamborghini.
Ça. Une Lamborghini.
Moi ça me fait pas mal
donne,
au cœur.
Tu vois. Ah ouais.
Non.
Quand même.
Depuis que j'ai découvert le Pagani, le Lamborghini Ferrari, ça me dégoûte presque.
Quand même. Quand même
j'ai des goûts de luxe.
Je rappelle que t'as un salaire médian.
Medium bas, tu vois, même.
Mais... Medium, non, c'est bien. C'est... Là, ce sont 3965 voitures plus ou moins de luxe qui ont pris feu sur un cargo entre l'Allemagne et les États-Unis.
C'est beau.
Ça s'est passé sur du côté des Açores, ce drame.
C'est la Russie ?
Non, c'est à côté de. C'est, les Açores, c'est portugais.
Ouais, alors ouais. C'est.
C'est pas la Russie.
Un sous-marin russe.
Ça pourrait. Pis, dans la soute, il y avait tout ce qui est univers Volkswagen, c'est-à-dire du Bentley, des Porsche, des Volkswagen. Des Audi, des Lamborghini, on est sur quand même du 300 millions d'euros de pertes, hein?
T'as quoi c'est un petit trou dans les finances.
Alors on n'est pas encore certain de la cause, mais ça sera dû à des batteries, les batteries des voitures électriques qui auraient pris feu.
Vous voyez l'électrique, c'est de la merde.
C'est une raison de plus pour moi de critiquer l'électrique. Ouais, on est d'accord. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Que vas-tu? Le sondage.
Starter, le sondage.
Il est nouveau, il est tout frais et il sera d'ici quelques minutes sur les réseaux sociaux, page Facebook Indestar, compte Instagram Indestar Radio. Vous prenez un taxi, alors ça a un rapport avec le sujet du jour. Prenez un taxi en France, là on va dire, est-ce que la marque ou le modèle a de l'importance pour vous? Oui, non, vous répondez simplement. Moi j'avoue que c'est vrai que quand je prenais un taxi, alors ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie, enfin c'est plutôt ma mère qui prenait un taxi, ouais. Je payais rien, ouais. Par contre, choisissez le taxi.
Ta mère qui paye, mais tu choisis.
Oui,
le taxi.
Quand il y en avait 2-3, tu sais, à la sortie de la gare, par exemple, ouais, je prenais le taxi qui me semblait le plus cool.
Pas les Focus, non, mais tu sais, les gros trucs. Ça,
Moi, c'était les Mercedes, l'ancêtre de la classe S, là, je sais plus comment elle s'appelle, mais. Mercedes en principe.
Pas des Scénic, mais des trucs gros que derrière.
Espace ?
Je sais pas. J'en vois souvent garé devant une gare par chez nous, Tours, une ville de chez nous. T'as toujours des taxis garés, et toi t'as des berlines, donc, que je trouve à peu près normales.
Genre des Skoda Octavia, parce qu'il y en a des masses.
Voilà. Effectivement, comme t'as dit, des Mercedes ou des Audi ou ce genre de trucs. Bah,
alors les Audi, c'est plus transporteur, tu vois. Bon, il y en a quelques-uns en taxi aussi, mais.
C'est kéké, mais bon, je prendrais pas une Audi, mais bon, voilà. Et ouais, t'as aussi des gros trucs des fois.
Oui, les monospaces.
Ouais.
Bah parce que.
Pas,
ouais, mais c'est logeable.
Oui,
Et les monospaces font aussi beaucoup de transports longue distance, de taxis longue distance. Tu sais, genre. Tour Paris par exemple, on est sur du 200 km pour aller à l'aéroport d'Orly
c'est
ou Croissy.
C'est pas électrique que tu feras ça.
Et c'est pas électrique que tu feras ça. Ou alors en 4 fois sans frais. Mais,
ouais.
Exactement ça.
Je choisirais forcément une berline. Je peux pas.
T'as pas confiance en les monospaces.
Mais c'est moche. Mon street cred en
je compatis. Il faut que t'arrives en taxi, il faut que tu montres que t'en imposes quand même.
T'arrives pas en scénique, merde.
On est d'accord. Bon, en tous les cas, on vous laisse voter toute cette semaine, enfin, surtout dans les 24 prochaines heures. Et puis, on fait le débrief lundi prochain dans Starter à partir de 21h. Je rappelle d'ailleurs un petit vendredi dernier, on a fait une émission spéciale aviation. Si vous avez envie d'écouter ce que ça donne et que vous n'avez pas pu suivre en direct, d'ailleurs, comme cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast. Hein, vous allez sur indestar.fr et puis vous avez le lien. C'était bien sympa. On avait notamment Hubert qui a été, lui, pilote de ligne et qui a, nous a raconté un petit peu de quelques anecdotes. Pascal qui s'y connaît pas mal en aviation. Il y avait aussi Dimitri qui était avec nous. Donc voilà, pas mal de choses qui sont passées dans cette émission. On a autant parlé de l'aviation civile que de l'aviation militaire.
Vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.